Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, Bagassi Koura en direct ici à Washington pour Sporama. Chers amis sportifs et amateurs du football sur le continent. Ce soir donc, comme je l'ai dit, Bagassi Koura en direct donc en lieu place de Nicolas Pineux et Yacouba Ouédraogo. Et ce soir, nous allons surtout nous entretenir avec nos consultants. D'abord, Amine Birouk, bonsoir.
Et bonsoir à tous.
Voilà, vous êtes au Maroc, notre consultant sportif sur place. Et aussi, nous avons Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Voilà Jules, ça fait du plaisir de vous entendre depuis Libreville. Et donc, on me signale aussi que de Dakar, nous avons Amdine Sy qui est en ligne. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Oui. Alors, tout le monde est en place hein, et cette semaine qui commence va débuter dès demain avec ces matchs de la Ligue des Champions en Europe. Ce match choc surtout entre Manchester United et Séville. Alors, Amdine Sy, comment vous voyez cette rencontre?
Oui, ce sera une rencontre indécise hein, puisque lors de la première manche jouée à l'extérieur, Manchester avait fait match nul, pris en échec. Vous parlez, je pense, que de Manchester United, Bagassi Koura, qui a été tenu en échec pour cette rencontre.
Contre Séville.
50-50, hein.
Ouais.
Puisque, comme à l'aller, c'était 0-0. C'est un résultat piège, puisque 0-0 partout, on ne sait pas réellement si c'est un bon résultat pour l'équipe qui s'est déplacée ou l'équipe qui a réussi. Donc, tout reste possible pour ce match entre Manchester United et Séville, puisque surtout si on sait que l'équipe de Mourinho, c'est vrai qu'en championnat, l'équipe a le vent en vous, puisque Manchester United
avec cette
vient
victoire,
quand même de remporter ce match contre Liverpool pour le duel de la deuxième place, mais en Ligue des Champions, tout reste possible. Rien n'est encore joué, un match de 0-0, c'est un résultat piège Bagassi Koura.
Alors Amine, vu la physionomie hein, du match aller et avec donc ce score vierge de 0 but partout, qui est-ce que vous pensez à l'avantage pour ce match retour?
C'est du 50-50 comme vient de le dire Amédine. Dans la mesure où l'équipe de Séville avait fait le jeu lors du match aller, s'était heurté à un De Gea impérial. Le gardien espagnol de Manchester United avait sauvé quelques situations chaudes avec des arrêts magnifiques. Et on sait dans quelle mesure les équipes de Mourinho sont redoutables sur des confrontations de manches. Il faut aussi rappeler que Manchester United n'avait plus été à pareil fait depuis de très nombreuses années. Donc l'ambition d'aller en quart de finale prédomine. La confiance existe malgré l'absence de Pogba, puisque contre Liverpool lors du match au sommet de la précédente journée du championnat anglais, Manchester l'a emporté sur le score de 2-1 et a récupéré la deuxième place au classement derrière une formation intouchable de Manchester City. Et bien évidemment, en face, il y a une équipe de Séville qui vient de perdre en championnat face à Valence à domicile 2-0, mais qui n'a perdu ni à l'aller ni au retour face à une équipe aussi redoutable que Liverpool en phase de poule. Donc ce sera un match où prédominera l'expérience, le vécu, l'ADN européen, et à ce niveau-là, un léger avantage pour Manchester United qui pourrait rejoindre l'équipe de Liverpool et l'équipe de Manchester City parmi les représentants de la Première Ligue en quart de finale de Champions League.
Alors, Jules, avant qu'on en arrive à vous, on me signale que nous avons un auditeur de N'Djamena. Christian Ndiarabé, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, alors vous, hein, vous pensez que le match qui va marquer les fans demain, ce sera donc ce match du Barça?
Oui, le match de Barça avec Séville et United avec...
Barça contre Chelsea et United contre Séville.
Oui, c'est deux matchs qui vont vraiment marquer les spectateurs. Les vainqueurs vont s'imposer, hein, vont s'imposer pour remporter. Et je pense que Barça sera battu par Chelsea et la chance de United... va battre
Oui. Merci, merci de nous suivre de N'Djamena au Tchad. Jules, donc, pour en venir à vous, est-ce que vous partagez totalement l'avis de nos deux consultants?
Oui, bien sûr, ça c'est du 50-50, surtout que nous avons affaire à une opposition de style. Une opposition de style, et dans ce genre de situation, l'équipe qui arrive à imposer son style pendant le match fait la différence. Et je peux rappeler également que les équipes anglaises ne sont pas très à l'aise face aux équipes espagnoles et que cela peut jouer en faveur de Séville, une équipe extrêmement rusée, surtout lorsqu'elle joue en Coupe d'Europe. Elle sait bien contenir l'adversaire et remonter très rapidement avec un jeu technique. Il est très difficile d'enlever la balle au pied des joueurs de Séville. Et donc, je crois que United aura un match particulièrement difficile, surtout que le jeu de Manchester United est un peu, disons que un peu, je dirais pas stéréotypé, mais est parfois lisible. Donc je crois que c'est du 50-50 carrément.
D'accord. Voilà, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Bagassi Koura ici au micro. C'est Sporama parce que c'est lundi soir et nous parlons donc de ces matchs de demain en Ligue des Champions en Europe. La deuxième rencontre, elle va opposer donc la Roma contre Shakhtar Donetsk. La Roma donc qui avait été battue à l'aller 2-1. Et Amdine Sy, comment vous voyez cette rencontre?
Oui, Roma Shakhtar aussi 2-1. Bon, c'est pas un très bon résultat si on sait qu'avec 1-0 l'équipe se qualifie. Donc c'est un match ouvert puisque la Roma qui battait sur l'eau au niveau du championnat italien est un peu en difficulté en ce moment. Et Shakhtar c'est une équipe imprévisible. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc on peut s'attendre également à un match ouvert entre ces deux adversaires.
Amine, un match ouvert?
Et vu la physionomie du match aller où la Roma avait mené au score avant que Shakhtar ne fasse un barreau d'honneur et ne puisse renverser la situation, je pourrais même dire que la Roma peut remercier son gardien de but parce que sur la fin de match, les Ukrainiens auraient pu marquer 2 ou 3 autres buts, ce qui aurait signifié la fin des espoirs de l'équipe romaine. La Roma possède la particularité d'avoir de bonnes individualités, surtout en ligne d'attaque avec Edin Dzeko, le joueur bosniaque. Il y a 15 jours, elle a réussi à damer le pion à Naples en championnat en déplacement sur le score de 4-2. C'est le troisième larron en foire du championnat italien derrière les intouchables Naples et Roma, Naples et Juventus. Et donc, a priori, s'il faudrait mettre une petite pièce, on la mettrait du côté de la Roma parce qu'elle possède le capital expérience, parce que dans son ADN européen, il y a quand même quelques places en demi-finale ou en finale des compétitions européennes. Et puis, ce petit but marqué à l'extérieur pourrait valoir très cher dans un stade qui sera totalement acquis demain à la cause de l'équipe romaine. La Roma a su faire sa transition et donc gérer l'après Totti et a priori, il y a une possibilité de voir l'équipe italienne, tout comme la Juve, en quart de finale de Champions League.
Alors Jules, donc la Roma, hein, elle va jouer donc demain après cette qualification de la Juventus Turin qui avait renversé donc son match hein, en Ligue des Champions. Les équipes italiennes qui ne sont pas très en vogue ces dernières années là, vous donnez quelle chance à la Roma?
Oui, non, ce sont, les équipes italiennes démarrent toujours au diesel, ça, tout le monde le sait. Et il ne faut pas oublier quand même que la Juve a déjà joué 2 finales en quelques années seulement. Donc, ça montre quand même que le championnat est relevé. Mais en ce qui concerne cette rencontre, comme le disait mon prédécesseur, le Shakhtar Donetsk est une équipe très fantastique qui a beaucoup de joueurs d'origine brésilienne et qui sait manier le ballon. Et donc, quand elle est dans une équipe et une phase de réussite, elle vous donne le tournis totalement. Donc, c'est quelle équipe de Shakhtar qu'on aura contre la Roma? C'est surtout ça la question. Surtout que là, on sait que les équipes de l'Est sont gênées par le passage de l'hiver au printemps, puisque la trêve est assez longue là-bas.
Voilà, merci à Jules Valentin. On me signale que nous avons Abdoul Gadri qui est en ligne de Conakry. Bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Alors, vous êtes sur Spourama, on vous écoute.
Ok. Comme je viens de le dire, j'ai dit que Chelsea va passer. Parce que je veux vous rappeler d'abord que moi, c'est mon club de cœur. C'est Didier Drogba qui a fait que je supporte Chelsea. Et depuis ce temps, j'ai aimé comme ça Chelsea. Et je parie que Chelsea va passer. Mais il faut rappeler qu'Antonio Conte joue avec un système comme ça que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Parce que vous avez vu l'autre jour, même ce qu'Eden Hazard a dit contre Manchester City. Il joue avec trois attaquants, mais avec un attaquant comme Eden Hazard, qui n'est pas attaquant de pointe de métier. Je pense que si Conte part à Barcelone en optant l'offensive, par exemple, dans la manière dont il avait joué contre Atlético Madrid, malgré que ça ne sera pas facile, parce qu'il faut rappeler qu'on a Lionel Messi en face, mais si bien Conte part à Barça, au Camp Nou, en mettant par exemple Eden Hazard, William et Giroud à la pointe, en optant encore avec un système offensif, parce que je sais que tactiquement, en défense, il pourra bien gérer. Mais si il laisse l'équipe, laisse au football, laisse Hazard, William s'exprimer, vraiment, j'ai pari que Chelsea va passer.
Alors, ne quittez pas. Amine, qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là?
On a vu au match aller qu'une équipe de Chelsea très bien organisée, sachant quadriller le terrain de manière rigoureuse, pouvait faire mal au Barça en partant de loin, en jouant tous les coiffants en contre. Et sur le match aller, avec un peu plus de chance, deux frappes de Willian auraient pu signifier d'autres buts pour cette équipe de Chelsea. Il y avait eu deux poteaux avant une troisième tentative plus réussie de la part du joueur brésilien. Mais on était resté sur notre faim parce que si Chelsea avait défensivement su cadenasser le match pendant très longtemps, il a suffi d'une petite erreur défensive, une relance dans l'axe que ne ferait même pas un cadet, pour que Barcelone, sur une passe d'Iniesta pour Messi, puisse prendre un avantage assez important. Aujourd'hui, le Barça ne va pas fermer le jeu au Nou Camp. Elle va essayer de prolonger les séances de conservation et de possession du ballon pour pouvoir chercher des intervalles. Chelsea va venir avec une stratégie ultra défensive, avec l'ambition peut-être de profiter de la moindre opportunité en contre. Mmh. Morata, qui était parti pour être l'avançant titulaire de cette équipe, n'est plus en odeur de sainteté aujourd'hui. C'est Eden Hazard qui occupe une position de faux avant-centre. Donc, c'est le talent d'Eden Hazard, c'est la capacité de Willian à frapper de loin, c'est les coups de pied arrêtés qui pourraient servir de planche de salut pour l'équipe entraînée par Antonio Conte, qui ne parle même plus à son président. De l'autre côté, vous avez une équipe qui a dans son passé des références importantes en Coupe d'Europe. Vous avez un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur selon certains, Lionel Messi. Il y a Luis Suarez qui est un buteur redoutable, et puis il y a cette culture de jeu à la barcelonaise. Barcelone ne va pas fermer le jeu, Barcelone va proposer du spectacle, et pour le moment, avec ce un but partout, si on devait s'arrêter à ce moment-là, c'est Barcelone qui sera en quart de finale. Mais attention, Chelsea dans un grand jour est capable de rééditer le coup du match contre l'Atlético de Madrid, où ils étaient partis gagner au Wanda Metropolitano en phase de poule.
Alors, Abdoul Gadri, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Oui, un dernier mot pour ce match de demain, rapidement.
Ok, j'ai parié à mon confrère qui vient de passer là. Chelsea n'ira pas à Barcelone pour défendre. Parce que Antonio Conte, il joue sa saison. Il joue sa saison. Parce que n'oubliez pas qu'il est comme ça sur un bout de fil qui ne tient pas. Parce que regardez les derniers résultats là. Tous les supporters sont pleins de son tactique de jeu. Je pense qu'il n'ira pas pour défendre. Je parie, parce que c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Je parie que Chelsea va passer. Ça, je ne le doute pas. Malgré qu'il y a Barcelone en face, et surtout que Barcelone joue à domicile. Mais je pense que si il part, il joue avec l'offensive et non défendre comme il a fait au match aller, je pense que Chelsea va passer avec Eden Hazard. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui a un tactique énorme.
Oui. Alors, je voudrais voir si Amdine Sy ou Jules Valentin voulaient rentrer dans ce débat-là. Amdine.
Allô? Oui.
Vous voulez ajouter un mot à ce débat-là?
Oui, c'est vrai. Amine a tout résumé. Hein. C'est une opposition de style entre une équipe du FC Barcelone et une redoutable équipe de Chelsea qui peut même descendre très bas, mais également amorcer des contres avec William et Eden Hazard. Donc, il faut faire très attention. C'est vrai que le Barça est imprenable à domicile, mais il doit faire attention. Non seulement l'entraîneur Antonio Conte est très visé, mais il a des joueurs qui peuvent créer l'exploit. Il s'agit notamment d'Eden Hazard et de William. Donc attention, attention, mais ballotage favorable au FC Barcelone.
Oui, d'accord. Et Jules, est-ce que vous pensez que Conte va miser sur la défense comme ne semble pas le partager notre auditeur?
Non, mais il faut dire que quand on joue à Barcelone, on mise d'abord sur la défense. Il faut savoir que l'atout numéro un de Barcelone au Nou Camp, c'est le terrain. Il est d'une très grande dimension, c'est la dimension maximale qui permet à Barcelone de jouer sur toute la largeur du terrain et de tirer la défense adverse, de telle sorte que le plus souvent, il est difficile de contrer à la fois l'axe et les couloirs, d'où les remontades dont vous entendez parler souvent. Bon, alors là, face à Chelsea, ils ont un avantage, bien sûr, mais le seul inconvénient est qu'à l'heure actuelle, Chelsea a des joueurs d'attaque capables de déclencher des véritables contre-attaques très rapides, comme Hazard, on l'a vu, comme William, et qui peuvent surprendre Barcelone à certains moments. Ce qui est sûr, il y aura des buts. Et je crois que Barcelone fera sienne cet adage de Pelé. Et le gagnant en football, c'est marquer plus de buts que l'adversaire.
Oui, merci bien, Jules Valentin. Et merci à Abdoul Gadri, qui était en ligne donc, de Conakry. Abdoul, n'hésitez pas à nous rappeler la semaine prochaine quand on aura tous les résultats pour en parler. Et nous allons continuer en football dans quelques instants. Voilà, vous êtes à l'écoute de Sporama, c'est sur VOA Afrique. On parle toujours de football hein, et cette fois-ci de Neymar Junior. Neymar qui a donc s'est retiré dans son pays, au Brésil, pour des soins médicaux. Alors, Amine, on nous parle de Neymar, de son retour éventuel à la Liga en Espagne. Est-ce possible pour vous?
C'est une éventualité qui coule de source. On sait qu'il y a eu des tiraillements au moment de sa blessure entre le staff médical de la sélection du Brésil et celui du Paris Saint-Germain. Il y a eu la volonté du joueur de se faire opérer au Brésil. On a vu comment l'aventure du Paris Saint-Germain vient de s'achever en Champions League face au Real Madrid. Et le joueur est ambitieux. Il a envie de succéder à Ronaldo, il a envie de succéder à Messi en tant que meilleur joueur du monde. L'impression qu'il a, c'est peut-être qu'il est en train de perdre son temps, restant à Paris. Pour être le meilleur joueur du monde, il faut être dans un des championnats les plus forts, en tout cas dans un club qui est capable de lui faire gagner des titres. Envisager un retour à Barcelone est difficile à concevoir parce qu'il est parti dans de très mauvais termes.
Oui.
Le voir de l'autre côté au Real Madrid après cette escale au Paris Saint-Germain est une éventualité. Maintenant, quel est le prix de Neymar? Est-ce que ça ne va pas encore créer, je dirais, une inflation sur le marché? En Espagne, on parle de 400 millions d'euros pour pouvoir amener Neymar. Des contacts auraient été entrepris entre le Real Madrid et l'entourage du joueur brésilien et c'est sur la base de ces informations que les dirigeants du club parisien sont allés très rapidement au Brésil pour essayer d'éteindre l'incendie. De la rencontre entre Nasser El Khelaifi et Neymar dépendra le sort du joueur. S'il reste à Paris, il y a une possibilité de construire un grand club autour de lui. S'il revient en Espagne au Real Madrid, il y a de l'argent qui arrivera à Paris et peut-être la possibilité d'aller chercher un autre grand joueur, encore une fois du côté de Barcelone. Et cette fois-ci, ce sera Messi qui sera visé.
Merci bien. Et Jules...